Alors, les matériaux utilisés au début étaient en bois et en plastique, mais leur résistance était mise à rude épreuve. Et de ce fait, en 1954, le chausseur Roger Vivier, qui travaillait à cette époque pour Christian Dior, eut l'idée d'insérer une tige en métal ou en plastique dans le talon afin de le rendre plus résistant. Cette technique va remplacer rapidement le talon en bois. Selon Vivier, le talon aiguille termine la silhouette d'un coup de crayon.
Très bien.
Alors, d'autres petites chansons. Donc là, c'est une chanson qui est extraite d'un film d'Almodovar qui s'appelle Talon aiguille.
On va continuer un petit peu sur les talons aiguilles, on ne s'en lasse pas.
Il y a tant à dire.
Alors, il se popularise, se médiatise à grande échelle dans les années 50-60, comme on en a un petit peu parlé. Leur existence est pour la première fois dévoilée dans le magazine américain Daily Telegram le 10 septembre 1953 sous le terme de stiletto. Pour sa ressemblance avec le poignard stylé de même nom, dont le talon imite le profil effilé. Cependant, le mot stiletto appliqué à la chaussure féminine est connu depuis les années 1930. Le succès des talons hauts s'épuise après les années 60, aux alentours des années 80 et 90, avant de revenir dans le commerce un peu plus tard. Des vedettes de cinéma telles que Gina Lollobrigida, Ava Gardner, Marilyn Monroe, qui avaient adopté ce type de talon, ont également évidemment contribué à sa popularisation. L'Italien Salvatore Ferragamo, chausseur de stars d'Hollywood, retravaille le talon aiguille qui prend de plus en plus de hauteur, 12 cm, voire plus. Ce type de talon gagne de l'ampleur et à partir de l'année 2000, depuis que les jeunes filles ajoutent une petite touche de féminité en portant des vêtements du quotidien tels que les jeans ou les jupes. Les talons aiguilles sont considérés comme une icône fétichiste ambivalente. Car ils représentent d'un côté un peu l'aspect chic et dominateur attribué aux femmes fatales et aux dominatrices, et d'un autre côté un attribut de soumission. Donc c'est
ambivalent.
Chacun voit midi à sa porte en fait, en ce qui concerne les talons et les stilettos. Alors c'est sûr que visuellement ça donne l'illusion d'une jambe extrêmement longue, plus mince, un plus petit pied, une taille plus grande. Ça modifie la posture, la démarche, parce que c'est sûr qu'on marche pas de la même manière avec la flexion des muscles du mollet. Enfin bon, donc ça amène même finalement à marcher le buste un peu plus en avant, les fesses un peu en arrière. Enfin,
voilà, la poitrine en avant.
Bref, tout ce qui est censé être sexy et attirant. Alors il y a quand même des féministes qui évidemment critique un peu ce stéréotype sexuel et dominateur des hommes envers les femmes. Et puis, elle critique à la fois ce côté dominateur, mais aussi ce côté transformer le physique de la femme, quoi. Enfin, voilà, si elle considère que si ça élève la femme physiquement, ça l'abaisse par l'inconfort qu'il suscite, ça l'entrave dans sa mobilité. Et voilà, donc c'est quand même assez critiqué. Bon, ça se porte encore. Beaucoup moins, j'ai l'impression, moi.
Mais... Oui, bah après, plus, peut-être dans les soirées. Ou
oui, voilà, c'est
sur
plus.
Le tapis rouge.
C'est quand même plus.
Aux Oscars ou aux.
Voilà,
aux
c'est
César,
quand même. Voilà. Au quotidien, en France, il n'y a pas tant que ça. Enfin, on ne voit pas tant de stilettos. Alors, au Japon, il y a un mouvement qui s'appelle Kuto. Enfin, je ne sais pas, K-U-T-O-O. Hein.
Voilà.
Kutu.
Je ne sais pas.
C'est un mouvement qui se répand sur les réseaux sociaux. Cet hashtag tiré de la combinaison de chaussures et douleurs est né d'un mécontentement salarial pour le port obligatoire talon haut dans les entreprises japonaises. Et le ministère du Travail a néanmoins refusé, malgré la pétition reçue, d'interdire cette pratique et de l'assimiler à une discrimination. Donc il y a une obligation parfois de porter des talons hauts pendant toute la journée au boulot, quoi. Au-delà de l'environnement professionnel, au Japon, les bars confèrent également des réductions en fonction de la hauteur des talons portés. Enfin bon, bref, mais c'est le Japon en même temps. Mais c'est pas le premier pays à se battre pour un tel changement. En 2016, une pétition contre les hauts talons au travail a été signée par plus de 150 000 personnes au Royaume-Uni. En soutien à la réceptionniste Nicola Thorpe, refusant le port des talons hauts. Bon, par ailleurs, parfois, la grande pression exercée par de tels talons a pu justifier leur interdiction. Donc il y a deux aspects quand même. C'est-à-dire que ça peut abîmer aussi.
Voilà, hein. C'est ça.
Donc c'est quand même très aigu.
Voilà, donc c'était pas tant pour le confort de ces dames.
Non, ça pas du tout. C'était pour que les sols, que les parquets, les tapis ne soient pas dégradés. Le mal de dos et puis le mal de pied, on s'en fout. On fiche complètement. Alors, il y a plusieurs candidats ou concours où les candidats ou candidates doivent faire une course en talons aiguilles. Ça, j'en ai jamais vu, mais ça existe. Il y a le stiletto races, le stiletto run, glam run, enfin bon, bref. En Allemagne, le magazine Glamour sponsorise ce type de course qui se popularise progressivement dans le monde entier. Et où les chutes répétées des participantes amusent. Voilà, le public. Ça, ouais. Voilà, c'est intéressant quoi, comme concept.
Voilà, donc c'est étonnant quand même. Hein,
ouais.
Alors, après...
Qu'est-ce que tu nous passes là ?
Eh bien, là, puisque... Excusez-moi. Le prochain sujet étant les bottes, bah évidemment, nous, à notre époque, quand on parle bottes, on parle chapeau melon et bottes de cuir. Alors, on va vous passer le générique de chapeau melon et bottes de cuir.
Be diffusion d'une émission de Principe Actif. Une rediff, quoi.
Donc, voilà. Là, c'était Serge Gainsbourg dans Initiale BB. Alors, la botte, c'est une chaussure unisexe, hein, dont la tige enferme la jambe et le pied jusqu'à une hauteur qui dépend de l'usage auquel elle est destinée. Donc, la cuisse, le genou, le mollet. À l'origine, les bottes ont un rôle utilitaire, comme la plupart des vêtements et accessoires. Hein, et donc, dans le domaine de l'équitation, les bottes sont naturellement portées pour monter à cheval en protégeant la partie basse du corps. Distinguant alors les bottes molles, on dit ici les bottes à la française ou à l'écuyère, dont la tige, hein, molle et large, se terminait par une large genouillère dans laquelle le genou était engagé. Les bottes de la cour ou à chaudron de la genouillère étaient évasées en forme d'entonnoir, les bottes fortes comme celles qui servaient au postillon, les bottes à la hussarde dont la tige portait des plis sous le coup de pied et les bottes à l'anglaise ou à revers. Ce rôle utilitaire est encore important dans l'habillement, dans le cas notamment des bottes de pluie, en plastique, et des après-ski, parfois appelés snow boots, utilisés pour marcher dans la neige. Historiquement, seuls les hommes ont porté des cuissardes pendant plusieurs siècles, de la Renaissance jusqu'à la Révolution. Les bottes montant jusqu'aux cuisses étaient indispensables pour préserver les pantalons, usés prématurément par le frottement sur la selle du cheval. Les femmes montées à cheval en Amazone et les reines Christine de Suède et Catherine de Russie portent des bottes parce qu'elles montent à califourchon, ainsi que plus tard l'impératrice austro-hongroise Elisabeth, plus connue sous le nom de Sissi. Alors, quant à Cristobal Balenciaga, il est l'un des initiateurs lorsqu'en 1963, il lance les bottes portées avec des tailleurs de sport. Puis, lancées par Paco Rabanne, Pierre Cardin et Yves Saint-Laurent, au départ en vinyle, les cuissardes sont portées par des stars comme Brigitte Bardot, Sylvie Vartan, Jane Birkin ou encore Amanda Lear qui ont raffolé. Associée à la mini-jupe arrivée de Londres en 1965, longtemps à marque de fabrique des dominatrices professionnelles, les cuissardes deviennent pour la première fois à la mode dans les 60s comme élément de la révolution sexuelle. Alors, en 1990, on voit Julia Roberts aussi, hein, héroïne du film Pretty Woman, qui entre en scène en mini-robe et cuissard de vernis noir. Et donc, le style Pretty Woman est ensuite évoqué en parlant d'une femme mini-jupée et bottée. Voilà. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on vous passe quand même la petite chanson, juste un petit extrait de Pretty Woman, et puis on va abréger. Allez, Pretty Woman.
Continuer un petit peu sur le même thème.
Les cuissardes.
Donc les années 2000 voient un grand retour dans les défilés de mode, Paco Rabanne, Versace, etc. Enfin bon, tout le monde s'y met. À partir de 2004, le retour de la botte de pluie ou botte de caoutchouc comme accessoire non seulement des jours de pluie mais aussi signe de mode caractérisé. Donc Burberry, etc. Enfin bon, tout le monde s'y met aussi. Et en 2007, la cuissarde est reine chez Chanel. En août 2007, le magazine français Vogue a publié des photos de Carla Bruni, nue, vêtue seulement de cuissarde Chanel. Charnel, j'allais dire.
C'est excellent. C'est peut-être ça qu'avait plu à notre ancien président.
Bah voilà. Fin 2007, la cuissarde fait son retour sur les jambes de Kate Moss, Madonna. Voilà. Les cuissardes sont ensuite revenues en nombre lors des défilés en 2008. Enfin, un engouement terrible pour les cuissardes. Fin 2007, la mode est qualifiée de botmania sexy. De nombreuses actrices et chanteuses se produisent en cuissardes, telles que Sarah Brightman, l'actrice et chanteuse Hayden Panettiere. Alors, il y a différents types de bottes, au total, des bottines, des bottes cavalières, genouillères, cuissardes, etc., etc. On peut peut-être changer un peu de chaussures, parce qu'il y en a d'autres, et peut-être des chaussures plus actuelles, voilà, et plus quotidiennes.
Donc
plus...
il est évidemment impossible de faire l'impasse sur les baskets, ou plus précisément les sneakers.
Ouais.
Aujourd'hui, tout le monde en porte, nous avons toutes une ou plusieurs paires de sneakers dans notre placard à chaussures, parfois même, ce sont les seules chaussures qu'un bon nombre de personnes portent. Alors, Exit, souliers, sandales, mocassins et stiletto, vive les sneakers. Alors, ce sont des chaussures de sport, détournées à un usage citadin et quotidien, et donc dérivées des modes conçus pour le sport. Elles sont appréciées pour leur confort et leur style. Alors, le mot sneaker a pour origine le verbe anglais to sneak, qui signifie se déplacer furtivement. Et donc, silencieusement. Il fait référence au silence des semelles en caoutchouc au sol, contrairement aux chaussures habillées à semelles en cuir standard, qui sont plutôt bruyantes. Ce mot est souvent attribué à l'américain Henry Nelson McKinney, un agent de publicité de Philadelphie. Et en 1917, il l'a utilisé parce que la semelle en caoutchouc rendait furtif le porteur de la chaussure. Ce qui peut être pratique parfois. Alors, l'histoire de la sneaker, ça remonte au XXe siècle, au début du XXe siècle, et intimement évidemment liée à l'utilisation du caoutchouc. Alors, en 1916, l'entreprise United States Rubber Company crée Keds, qui commercialise les premières chaussures dotées de semelles en caoutchouc, comme considérées les premières sneakers de l'histoire. Évidemment, à se remarquer pour leur confort et leur discrétion, ces chaussures marquent une rupture avec les chaussures traditionnellement utilisées pour un usage quotidien. Elles permettent aussi le rebond, contrairement aux espadrilles en corde à l'origine utilisées par les joueurs de tennis, par exemple. Et l'année suivante, Converse créa la Chuck Taylor All-Star, des chaussures de basketball qui seront par la suite également vendues pour un usage quotidien. Bah, tout le monde a au moins eu une paire de Converse dans sa vie, hein. Alors, à partir des années 50, les ventes des sneakers augmentent de manière exponentielle jusqu'à venir concurrencer les ventes des chaussures traditionnelles en cuir. Et à partir des années 70-80, elles commencent à être prisées par de jeunes urbains américains, en particulier issus des minorités et liés au monde du hip-hop. Des marques comme Adidas vont sentir le potentiel marketing en faisant des rappeurs leur égérie. Et pendant les années 90, les marques de sneakers s'attachent de plus en plus à l'esthétique de la chaussure et jouent sur du marketing pour les vendre au plus grand nombre. Les sneakers sont alors moins choisis pour leur confort que pour l'identité qu'elles façonnent pour celui qui les porte. Ah, voilà.
Oui, parce qu'on n'a pas parlé des chaussures des punks, des chaussures des... Ça peut être un marqueur très très fort quand
même. Ceux qui portent des Doc Martens. Alors, il nous reste combien de temps ? Alors, je vais passer juste un petit bout de chanson là, de Mauvaise Graine. Dans sa chanson, elle dit « Je suis le même pied nu ou en Nike, hein, quelles que soient les chaussures que je porte. »
À 16 ans, j'ai dû voir un psy, mauvaise graine. À 6 ans, j'ai dû voir un psy. À 16 ans, j'ai dû voir un psy, mauvaise graine. Alors, je mords le métal. J'ai pas besoin de leur merde dans le mental. J'ai connu la galère et je n'en redemande pas. Je sais que devenir quelqu'un demande énormément de taf. Mauvaise graine, j'ai pas la tête de l'emploi. La mort vient scred, mais la mort ne ment pas. Les mots m'espèrent, la monnaie monumentale. Avant d'avoir le respect, c'est d'avoir le mental. Mais mauvaise graine, soulève pas des montagnes. Je veux voir le mauvais. mauvais chemin déçu par nos voix. On ne confond pas l'honneur et l'orgueil, on a tous dans le cœur le rayonnement des supernovas. J'ai côtoyé des gens qui parlaient d'amitié mais qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. Ceux qui te font rigoler quand tout va bien mais qui ne seront jamais là quand le malheur te noie. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur, pour mes mauvaises graines. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur. Y'avait des mecs dangereux chez mes ennemis. Un jour ils ont commencé à menacer ma mif. Alors je me suis armé par le biais d'un ami. Mais Dieu merci, je m'en suis jamais servi. Faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, nous-mêmes on se connaît pas. J'ai fumé trop de shit noir mais je suis népale. Quand la galère te transforme en épave, on n'aime pas quand la coke passe dans le népaf. La monnaie part comme on épargne, ce monde débarche. On mérite seulement des baffes. Mauvaise graine, pas de trêve. Mauvaise graine, ne veut pas de trêve. Ce soir dans ton tiroir tu foudras ta place. Avant de t'endormir elle t'en foudra ta femme. L'équipe était prête à prendre la foudre à ta place. Mais t'as fait le traître alors on floutera ta face. J'ai côtoyé des gens qui parlaient d'amitié mais qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. Ceux qui te font rigoler quand tout va bien mais qui ne seront jamais là quand le malheur te noie. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur, pour mes mauvaises graines. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur.
Bon, on va continuer parce que sinon on va pas avoir le temps de tout vous dire. Alors, voilà, c'est un véritable phénomène hein, de société. La sneaker, c'est devenu un sujet de manifestation, diverses expositions, conventions de collectionneurs, etc. En 2020, la plus grande exposition de sneakers en Europe ouvre au Musée des Arts Décoratifs et du Design de Bordeaux. Intitulée Playground, elle retrace l'histoire des baskets depuis le XXe siècle. Et en 2022, l'exposition Sneakers, les baskets entrent au musée et organisée au Musée de l'Homme à Paris. Alors parmi le dessus du panier, si on peut dire, voilà, des sneakers, on a la Nike Air Jordan, qui est sans aucun doute l'une des baskets les plus emblématiques de tous les temps. Elle a été créée en collaboration avec le célèbre joueur de basket Michael Jordan. Depuis son lancement en 1985, elle a connu un succès phénoménal et continue d'être une référence incontournable dans l'industrie des sneakers. Alors on a aussi l'Adidas Superstar, qui est une autre icône indémodable qui a marqué l'histoire de la culture sneakers. Lancée pour la première fois en 69, cette basket en cuir blanc avec ses trois bandes distinctives est rapidement devenue un symbole de style et d'originalité. Alors bien sûr, on a la Converse Chuck Taylor All-Star, qui est la chaussure légendaire qui a su traverser les décennies sans perdre sa popularité. Introduite pour la première fois en 1917, cette sneaker en toile est rapidement devenue un choix privilégié parmi les joueurs de basketball professionnels. Bien sûr, au fil du temps, elle s'est posée comme un symbole du mouvement punk rock et a conquis le cœur des amateurs de mode urbaine. Et enfin, la Puma Suede classique est une sneakers emblématique qui incarne l'esprit rebelle et la créativité de la culture sneaker. Lancée en 68, cette basket andin a su se démarquer par son design minimaliste et sa silhouette intemporelle. Alors, ces marques emblématiques et leurs modèles phares ont indéniablement influencé la culture sneakers, tant sur le plan stylistique que sur le plan socioculturel. Leur héritage perdure aujourd'hui et continue d'inspirer des générations futures dans leur quête de style et d'expression personnelle. Alors, il y a même une série télévisée américaine de 2020 qui s'appelle Sneaker Addict. Voilà. Et donc là, on vous a parlé de chaussures là tout au long de la. Alors vous dites c'est peut-être un peu loin le rapport avec les femmes, mais n'oublions pas que dans les années antérieures, dans les milieux de la bourgeoisie et de l'aristocratie, le port de chaussures légères par les femmes était quand même un frein à leur émancipation, parce qu'avec de telles chaussures, elles ne pouvaient pas aller bien loin en dehors des salons, hein, de leur maison. Voilà, même dans le jardin, c'était parfois difficile. Et donc toutes ces chaussures stiletto, par exemple, etc., bah, c'est quand même pas très facile de marcher avec, et de courir encore moins. Hein, et donc, ça laisse les femmes dans un champ assez près, hein, pour qu'on puisse courir après. Et puis, pensons aussi, par exemple, aux femmes chinoises hein, qui l'ont bandé les pieds